Bonjour, Renaud Dourge en votre compagnie. J'ai le grand plaisir d'être par téléphone en compagnie de Éric Fouassier pour le tome 5 du Bureau des Affaires Occultes intitulé « Les Archanges de la Nuit ». Éric Fouassier, bonjour.
Bonjour.
Eh bien, j'ai le plaisir de vous avoir de nouveau, car il y a à peu près 2 ans, je crois me rappeler, nous avions déjà parlé d'un des précédents volumes du Bureau des Affaires Occultes.
Alors, oui, tout à fait. C'était le 4e tome qui se déroulait en 1832, au moment de la dernière révolte de la Vendée.
Et nous allons parler tout à l'heure d'autres révoltes, d'ailleurs, si vous le voulez bien, mais sous le règne de Louis-Philippe. Et donc, rappelons que vous êtes docteur en pharmacie et en droit. Vous enseignez l'histoire de la médecine en faculté. Vous êtes passionné d'énigmes et de codes secrets. Alors, il y en a également dans cet ouvrage, d'ailleurs, dans les Archanges de la Nuit. Et ben, je voudrais déjà savoir comment est née cette série du Bureau des Affaires Occultes.
C'est né justement d'un attrait pour cette période de la monarchie juillet, donc le règne de Louis-Philippe, qui n'est pas finalement très connu du grand public parce que c'est une période de transition. Souvent, on a tendance à aller directement du premier empire au second empire et on ne parle pas du règne de Louis-Philippe. Or, c'est une période qui m'a vraiment attiré pour y placer des intrigues policières parce que c'est un moment de changement de la police. C'est un moment où on bascule de la police à la Vidocq, qui était la police du flagrant délit, la police des mouchards. Et d'ailleurs, Vidocq est un personnage de la série, mais il y incarne plutôt les anciennes méthodes. Et là, on bascule vers la police de la preuve du fait des très nombreux progrès scientifiques de l'époque et notamment des progrès de la médecine légale. Et puis, une autre raison qui m'a fait inventer cette série à cette période-là, c'est que c'est une période assez paradoxale parce que, donc, comme je viens de le dire, il y a beaucoup de progrès scientifiques, beaucoup d'innovations technologiques. On va inventer en quelques années la photographie, le chemin de fer, etc. Et paradoxalement, c'est aussi une période où les gens se passionnent pour l'irrationnel, l'inexplicable. Donc, on se passionne pour l'hypnose, c'est le début du spiritisme, les artistes commencent à se droguer, à fréquenter les paradis artificiels. Et donc, je trouvais que ce contraste science et sciences occultes se prêtait bien à des intrigues policières.
Alors justement, dans cet ouvrage, on peut dire que l'on passe de l'alchimie à la chimie et inversement.
Oui, l'alchimie occupe une part très importante dans le roman, puisque en fait, on va confier à l'inspecteur Verne, qui est le héros de cette série, une enquête qui consiste à essayer de trouver de mystérieux assassins qui sèment des cadavres derrière eux, et chacun de ces cadavres a dans sa bouche un métal qui est à chaque fois différent, et ce métal renvoie à la fameuse voie de la transmutation alchimique pour passer du métal le plus vil jusqu'à l'or. Et chacun aussi de ces cadavres est accompagné d'un texte prophétique.
Dont nous allons parler d'ailleurs d'un texte apocryphe de l'Ancien Testament, mais nous allons en parler parce qu'il est peu connu du grand public en quelque sorte. Mais commençons, si vous le voulez bien, à représenter qui est l'inspecteur Valentin Verne et l'évolution du personnage, d'ailleurs, au fur et à mesure des volumes. Alors, il a eu une enfance pour le moins difficile.
Voilà, ce qu'on découvre dans le premier tome de la série, c'est qu'effectivement, c'est un policier qui est rentré dans la police, pas par hasard, mais parce qu'il poursuivait une quête qu'avait poursuivi avant lui son père adoptif, qui est de traquer un mystérieux criminel qui s'appelait le vicaire. Et ce jeune policier a subi dans son enfance des traumatismes qui l'incitent à vouloir lutter contre le mal. Et au fur et à mesure que la série avance, ce chevalier du bien, qui est en plus un aspect un peu d'archange, parce qu'il a une beauté comme ça angélique en surface, petit à petit se confronte à la réalité et en vient à douter de ce monde, de cette représentation un peu manichéenne du monde qui était la sienne au départ, le mal d'un côté, le bien de l'autre. Et là, dans ce tome des Archanges de la Nuit, on amorce un véritable virage dans la série, puisque pour la première fois, Valentin se pose des questions sur sa possibilité de continuer à servir un régime qui ne partage pas peut-être les mêmes valeurs que lui.
Bien sûr. Ce régime, en fin de compte, il est très, très récent. C'est en 1830 que Louis-Philippe a accédé au trône. Et en 1834, ça va déjà pas du tout. Ça commence d'ailleurs, vous évoquez déjà des révoltes réprimées à Lyon.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le régime de Louis-Philippe, dès le départ, a suscité beaucoup d'opposition parce que, en fait, les républicains ont eu l'impression de se faire confisquer la révolution de 1830, hein, les fameuses Trois Glorieuses qui ont permis de chasser Charles X, mais en fait, on a simplement changé de roi sous la couronne. Donc, Louis-Philippe a succédé à son cousin. Ça a fait aussi des déçus chez les bonapartistes, les nostalgiques de l'Empire. Bref, dès le début du règne de Louis-Philippe, il y a vraiment une ambiance délétère, il y a beaucoup d'opposition, mais cette opposition est divisée, mais elle se constitue en société secrète, etc. Et là, en 1834, là, qui est l'année où se situe donc cette nouvelle intrigue, les archanges de la nuit, c'est un moment de virage du régime de Louis-Philippe parce que ce régime s'appuie sur la haute bourgeoisie au détriment de la noblesse. C'est un moment où l'industrie se développe, on crée des voies de chemin de fer, on perce des canaux, la bourse se développe, c'est le développement aussi de la haute finance. Et donc, c'est un moment de difficulté pour le monde ouvrier, le monde artisan, les artisans, parce que c'est un début de la mécanisation, c'est le début de la révolution industrielle en France. On commence à mécaniser les choses. Et donc, à cette époque-là, les ouvriers, les artisans n'arrivent plus à gagner leur vie. Ils triment 16 heures par jour, mais ils ne gagnent plus de quoi nourrir leur famille. Et donc, ça va entraîner des révoltes ouvrières. Et là, en 1834, on aura la deuxième révolte des Canuts à Lyon, qui va être réprimé de façon très sanglante et qui va avoir des échos à Paris même.
Et il y a un personnage politique qu'on va retrouver bien plus tard au moment de la Commune, c'est Adolphe Thiers.
Oui, Adolphe Thiers vient d'être nommé ministre de l'Intérieur au printemps 1834 et c'est lui qui va ordonner la répression sanglante de la révolte des Canuts à Lyon et également une répression tout aussi sanglante des émeutes qui surviennent à Paris en écho à cette révolte des Canuts lyonnais. Et donc Valentin, au cours de son enquête, va se retrouver mêlé à une affaire qui est restée célèbre, qui est le massacre de la rue Transnonain.
J'allais en parler justement, il y a un tableau très célèbre.
Oui, de Daumier. Oui, qui a largement contribué d'ailleurs à faire connaître ce massacre. C'est-à-dire qu'il y a une gravure de Daumier qui représente effectivement une chambre où ont été massacrés des civils, le père, la mère, le bébé. Et ce qui a vraiment frappé les gens à l'époque, c'est que ce ne sont pas du tout des émeutiers qui ont été massacrés, ce sont des civils qui ne demandaient rien à personne. Un coup de feu a été tiré, un capitaine a été tué et les soldats s'engouffrent dans une maison et tuent tout le monde. Et donc Valentin va se retrouver mêlé de près à ce...
Il va être sur place, par hasard sur place.
Oui, il est sur place pour son enquête, en fait. Alors ça, c'est purement fictionnel.
Hein. Bien sûr.
Un des conspirateurs, un des fameux archanges de la nuit, loge dans cette rue Transnonain. Et donc, il se trouve sur place au moment de l'enquête et il va assister à ce massacre. Et c'est effectivement quelque chose qui va beaucoup l'ébranler parce qu'à partir de là, il s'interroge sur son métier de policier et se demande s'il peut continuer à servir un régime qui est capable comme ça de massacrer des personnes innocentes.
Alors, il s'interroge sur son devenir professionnel, mais il y a également une évolution dans sa vie intime. Avec son ami.
Voilà, et donc avec Aglaé, qui est sa compagne maintenant, et qui a intégré l'équipe du Bureau des Affaires Occultes. Et alors, je ne sais pas si on va peut-être pas spoiler pour les lecteurs, mais effectivement, leur relation évolue considérablement dans ce volume. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, c'est que, comme c'est une série avec un héros récurrent qu'on va retrouver, je tenais vraiment à ce que le héros évolue tout au long de la série. De toute façon, dès le départ, je savais où je voulais emmener mes héros. Et donc, il faut qu'il y ait une évolution constante de ce personnage, parce que je crois que c'est la vie, tout simplement. Nous évoluons tous au fil de nos rencontres, des drames que nous vivons, etc. Et je voulais que ce soit la même chose pour Valentin. Et effectivement, dans ce tome, il évolue à la fois par rapport à sa réflexion en tant que policier, mais par rapport à ses missions de policier, mais il évolue aussi par rapport à sa relation avec Aglaé, à ce qu'il veut construire, ce qu'il est prêt à construire avec elle.
Alors, ce qui est très très bien également avec ce personnage que vous avez créé, c'est que ce n'est pas, comme on pourrait souvent le trouver, un super-héros, mais il a ses fragilités également.
Il a beaucoup de failles, effectivement. Il a des failles qui lui viennent
de l'enfance.
Des traumatismes qu'il a subis enfant. Et puis, il a aussi des failles qui sont liées à ce contraste qu'il peut y avoir entre les illusions qu'on peut se faire dans une vie rêvée idéale et la réalité du monde matériel. Et donc il voit ses plus belles illusions se fracasser contre la réalité de la vie, quoi. Dans ce tome-là, c'est très présent. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'alchimie est si présente dans ce roman, parce qu'elle symbolise un peu ça, parce que la plupart du grand public ne connaît que l'aspect matériel de l'alchimie.
Nicolas Flamel, par exemple.
Voilà, c'est la recherche de la pierre philosophale pour tout transformer en or, ou la recherche de l'élixir de l'éternelle jeunesse, la médecine universelle. Mais à côté de cette approche très matérielle de l'alchimie, il y a une dimension dans l'alchimie qui est une dimension plutôt d'ordre spirituel et mystique, qui est de rechercher la pureté originelle de l'alchimiste à travers son œuvre matérielle dans le creuset. En réalité, il cherche à purifier son esprit pour essayer de retrouver la pureté originelle avant le péché originel. Et c'est cette symbolique qui est présente tout au long du roman et qui symbolise en fait aussi le parcours de Valentin, qui est tiraillé entre ses idéaux et la réalité contre lesquelles se fracassent justement ses idéaux.
Il y a un exemple frappant, c'est le mot vitriol qui... En latin, il y a une signification tout à fait différente que le simple vitriol que l'on connaît.
Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un acronyme qui était utilisé par les alchimistes pour dire qu'il fallait trouver la pierre dans le sol et la rectifier pour pouvoir atteindre la vérité absolue qui était justement cette pureté originelle.
Alors, nous allons rester dans ce domaine ésotérique dans un instant, mais nous allons laisser passer un communiqué si vous le voulez bien.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Je rappelle que je suis en compagnie d'Éric Fouassier pour parler des Archanges de la Nuit, qui est le cinquième volume du Bureau des Affaires Occultes. Et des bureaux, maintenant, depuis, il y a eu d'ailleurs une série très célèbre, c'était le qui se passe au SDEG, qu'on parle également de Bureau des Affaires. C'était sur Canal, si mes souvenirs sont bons.
Oui, c'est ça, le bureau des légendes.
Le bureau des légendes, c'est... Bon, il y a quand même quelques petits rapports, en quelque sorte. Alors, il y a aussi, donc, tout à l'heure, j'évoquais ce côté, alors on parlait de spiritualité, un texte biblique apocryphe, qui n'est pas très connu du grand public, mais qui, dans cet ouvrage, a une très, très grande importance.
Oui, il s'agit du livre d'Enoch, qui fait donc partie de ces livres qui ont été écartés de la Bible officielle, et qui est un livre assez étrange parce que il raconte donc des visions du prophète Enoch, et donc il traite des hiérarchies célestes et de la place très importante des anges au niveau des hiérarchies célestes, et donc les archanges de la nuit dans mon roman s'inspirent de ce livre qui dénonce notamment l'accumulation des richesses, et donc sur chaque personne qu'il tue, il laisse un extrait du livre d'Enoch qui dénonce en fait la possession des richesses à une époque donc où, comme je le disais, l'argent est devenu le nouveau roi du régime de Louis-Philippe, hein, le nouveau dieu que tout le monde adore. Et donc Valentin va devoir essayer de percer le mystère, de comprendre qui sont ces archanges. Et donc l'ambiance est une ambiance presque de roman gothique, hein, puisque ces archanges se réunissent la nuit dans les ruines d'une abbaye qui est complètement détruite, avec des mots de passe, des pratiques, des rites qui sont ésotériques, etc. Donc on a une ambiance comme ça, très sombre, très occulte, très gothique dans le roman.
J'ai pensé un petit peu d'ailleurs à un certain moment de la lecture à un auteur d'origine belge, enfin qui est disparu depuis très longtemps, c'est Jean Rey. Vous avez peut-être déjà lu Jean Rey.
Oui, tout à fait. Il y a un peu de Malpertuis, qui est le plus célèbre roman de Jean Rey. Il y a un peu de ça, effectivement, avec effectivement ces divinités qui sont présentes parmi nous. Et donc, il y a cette ambiance assez sombre, assez mystérieuse. C'est donc avant tout un roman policier, donc évidemment il y a plein de rebondissements et il y a plein de mystères et tout l'enjeu pour Valentin, c'est de réussir à percer ces mystères et d'en sortir surtout indemne avec Aglaé.
Vos connaissances en pharmacie vous sont bien évidemment très utiles, je pense, pour certains détails de l'ouvrage.
Ben, notamment l'alchimie, parce que moi je me suis intéressé à l'alchimie d'abord comme scientifique, en fait, en m'intéressant à l'alchimie comme ancêtre de la chimie. Il faut savoir qu'en fait, les alchimistes sont à l'origine de l'élaboration d'instruments qui ont été utiles pour la chimie au départ, hein, de fours, d'appareils à distiller, etc., alambic, altanor, etc. Mais en même temps, ils sont aussi à l'origine de découvertes, hein, des premières découvertes de la chimie qui était encore balbutiante. C'est comme ça qu'au XVIIe siècle, par exemple, c'est un alchimiste qui a découvert pour la première fois le phosphore. Et donc, moi, je m'y suis intéressé d'abord comme cela. Et évidemment, cette dimension un peu mystérieuse, symbolique qui entoure l'alchimie, je savais qu'un jour ou l'autre, je l'exploiterais dans un roman. Et là, dans les Archanges de la nuit, c'est vrai que l'alchimie est complètement au centre de l'intrigue policière.
Et au début, on peut se demander pourquoi ces meurtres, parce qu'il n'y a pas que des gens riches, il y a un chiffonnier, entre autres, qui est assassiné.
Voilà, au milieu, effectivement, de gens qui sont plutôt des gens riches, banquiers, assureurs, agents d'affaires, on a parmi les premières victimes un chiffonnier, donc qui n'a absolument aucun rapport avec les autres. Et c'est ça qui va effectivement au début désorienter Valentin. Pendant toute une partie de l'enquête, Valentin n'arrive pas à comprendre quelles peuvent être les motivations de ces gens. Et il va lui falloir beaucoup de persévérance pour arriver à percer le mystère et arriver à découvrir la réalité qui se cache derrière.
Alors nous l'avons dit tout à l'heure, le personnage du vicaire n'existe plus. Est-ce que vous n'avez pas un peu regretté de l'avoir enlevé parce qu'il personnifiait vraiment le mal ?
Non, parce que si, alors peut-être je vais vous livrer un scoop, mais le dernier tome de la série s'appellera Le Retour du Vicaire.
Ah voilà.
Le vicaire, comme dans tout bon roman populaire, un méchant, on n'est jamais sûr qu'il ait complètement disparu, et donc le vicaire reviendra, refera son apparition dans le dernier tome de la série.
Ça sera le dernier, vous êtes sûr donc?
Oui, au départ, quand j'ai commencé la série, je savais qu'il me faudrait plusieurs romans pour rendre compte justement de la richesse de l'époque, mais je ne savais pas si la série contiendrait 6, 8, 10 ou 12 romans. Là, maintenant, maintenant qu'on est bien avancé, on en est au 5e tome, je sais qu'a priori, la série fera 8 tomes, et donc le 8e s'appellera le Retour du Vicaire. Ah, mais maintenant, tous les 2 ans, j'intercale un one-shot qui n'a rien à voir, qui me permet d'explorer une autre époque et d'autres schémas narratifs. Et donc, pour 2027, je prépare notamment un roman qui va être une très, très grosse surprise pour les lecteurs et qui se déroulera au XVIIIe siècle en Italie.
Ah ! Autre thème abordé dans cet ouvrage, et nous n'en avons pas encore parlé, mais qui est très important, c'est celui de la prostitution à l'époque.
Oui, effectivement, la prostitution pose problème à l'époque parce qu'elle s'est beaucoup développée au moment de l'occupation par les forces coalisées contre Napoléon, donc au moment où le régime napoléonien s'écroule. Et à cette époque-là, il y a donc beaucoup d'insoumises à Paris. Les insoumises, c'était les filles, les prostituées qui n'étaient pas enregistrées, qui ne travaillaient pas dans des maisons closes recensées. Et donc, Aglaé, qui fréquente les milieux féministes, et notamment là dans le roman, on voit revenir George Sand, qui apparaissait déjà dans le 3e tome de la série, mais aussi une autre féministe très importante de l'époque, qui est Suzanne Voilquin, qui était la rédactrice en chef de la revue des femmes, qui était la première revue entièrement écrite par des femmes. Donc Aglaé, avec ses deux personnages, avec George Sand et Suzanne Voilquin, deux personnages historiques, vont essayer de défendre une proposition de loi qui vise à la fois à protéger les filles mères, c'est un vrai problème à l'époque, les filles mères, et c'était une entrée dans la prostitution parce qu'elles étaient rejetées par toute la société. Et puis, l'autre volet de cette proposition de loi vise effectivement à mieux protéger les filles insoumises et à assurer en tout cas leur sécurité sanitaire. Et donc, il y a un vrai combat là féministe. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait aussi beaucoup attiré lorsque je me suis documenté sur l'époque, parce que je l'ignorais totalement avant de faire ce travail de documentation, c'est que c'est vraiment un moment où, en France, le féminisme va réellement se structurer avec des vraies revendications d'ordre social, c'est-à-dire la réforme, ces femmes réclamaient la réforme du mariage, elles voulaient être l'égalité de l'homme de leur époux dans le mariage, elles voulaient la même autorité sur les enfants, elles voulaient pouvoir accéder à l'éducation, pouvoir faire des études, accéder à des métiers qui leur étaient complètement inaccessibles à l'époque, comme médecin, avocat, notaire, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, que j'ai trouvé vraiment intéressant, parce que finalement, lorsqu'on fait le bilan de cette époque de Louis-Philippe, on se rend compte qu'elle présente beaucoup de similarités avec la nôtre. Donc les luttes sociales, les difficultés que rencontrent les gens qui travaillent, qui gagnent leur vie avec le salaire de leur travail, l'arrivée au pouvoir de la haute finance, ces luttes des femmes pour être reconnues. Je trouve que c'est peut-être là que se situe un des succès de la série, puisque j'ai la chance du coup d'être suivi par de nombreux lecteurs sur cette série. Je crois que c'est parce que elle a plu même à des gens qui n'avaient jamais lu de livres historiques, parce que c'est vraiment une époque qui en réalité fait écho avec toutes les problématiques de notre propre époque.
Bah, nous sommes en pleine période de salons, des différents salons du livre dans toutes les régions. Je pense que dans vos lecteurs, il y en a beaucoup qui viennent vous parler de leur passion pour cette série.
Oui, mais c'est d'ailleurs l'un des intérêts d'avoir une série avec un héros récurrent, c'est que finalement, les lecteurs s'emparent de vos personnages et projettent, devancent en fait vos livres et projettent ce que devrait être l'avenir de vos personnages. Et ça, c'est très amusant parce que, évidemment, sur les salons ou à travers les réseaux sociaux, on voit quelles sont les attentes des lecteurs et ce qu'ils souhaiteraient. Que soit l'histoire de Valentin et d'Aglaé. Et ça, c'est très amusant pour un auteur parce que moi, je m'amuse soit à combler ses attentes ou au contraire à les frustrer. Par exemple, dans le troisième tome, Valentin et Aglaé s'étaient rapprochés. J'avais fini par les faire se rapprocher parce que j'avais bien vu que c'était une attente des lecteurs. Et puis, les lecteurs étaient tellement contents de ce rapprochement, je me suis dit, dans le quatrième tome, je vais les séparer. C'est pour ça que j'avais envoyé Valentin en Vendée et Aglaé restait à Paris.
Et là, il va se passer quelque chose dont on ne va pas parler, mais dans le tome 5, il y a un autre événement qui va se produire.
Voilà, et donc j'ai hâte justement de ces premiers salons, puisque le livre là, est paru en mai. Donc il y a à peine un mois, et donc là j'ai plusieurs salons de programmer avant l'été, et j'ai hâte d'avoir le retour des lecteurs pour voir justement comment cet événement nouveau qui apparaît dans la vie d'Aglaé et Valentin, comment ils vont s'en emparer et ce qu'ils souhaiteraient voir pour la suite, ce qui ne veut pas du tout dire que je le ferai, au contraire, parfois c'est ce qui me fera prendre le contre-pied, mais ça c'est très amusant de jouer justement avec les attentes du lecteur, et c'est ce que permet une série avec un héros récurrent.
Mais ça je peux témoigner parce que pour ne pas le nommer sur Facebook, je vois qu'il y a pas mal d'intérêt déjà pour cet ouvrage.
Oui, c'est un vrai petit miracle d'avoir comme ça des personnages qui tout d'un coup rentrent en phase avec les lecteurs et suscitent une vraie fidélité. Il y a un vrai lectorat fidèle sur cette série et c'est un vrai plaisir pour un auteur.
Je pense que certains de vos lecteurs, je vais vous poser d'ailleurs la même question, vous disent peut-être pourquoi ne pas voir porter à l'écran cette série.
Oui, alors elle a été adaptée en bande dessinée. Il y a déjà eu une première bande dessinée qui est parue à la fin de l'année dernière, qui s'appelle Ballet Masque, qui est parue chez Albin Michel, avec au scénario Thomas Mosby et Olivier Brazao au dessin. J'avais travaillé avec eux en amont, on avait discuté ensemble, puis après je les ai laissés complètement libres. Et en fait, ça n'est pas une adaptation des romans. Ils reprennent tout l'univers du Bureau des Affaires Occultes, mais avec des enquêtes inédites. Et là, cette première enquête se centre sur le personnage d'Aglaé, qui est l'héroïne, plutôt que Valentin. Pour l'instant, à l'écran, rien ne s'est fait. Les droits sont toujours disponibles. Il y avait une préemption des droits par une maison de production qui souhaitait faire une série, mais en fait, ils n'en ont pas fait grand-chose. Là, pendant 5 ans, ils avaient l'option sur les droits, ils n'en ont pas fait grand-chose, et du coup, on a décidé de remettre les droits sur le marché. Donc, à bon entendeur salut. En tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup des lecteurs que je vois en salon aimeraient voir effectivement cette série portée à l'écran.
Et peut-être avez-vous vous-même imaginé qui pourrait interpréter Valentin, par exemple ?
Ah oui, j'ai des petites idées, mais alors je préfère les garder pour moi
bien
parce qu'en fait, quand j'en discute avec les lecteurs, je m'aperçois que chacun a sa propre présentation.
C'est évident, chacun.
Voilà, d'Aglaé. Et à la limite, je préfère pas trop dire qui j'ai en tête quand j'ai créé le personnage d'Aglaé ou de Valentin. Parce que, alors, notamment, par exemple, pour Aglaé, j'avais pensé vraiment à une actrice très précise. Je préfère pas trop le dire parce que derrière, en fait, on frustre le lecteur lorsqu'il s'imagine quelqu'un de complètement différent.
Bien sûr.
Donc, voilà. Chacun imagine comme il le souhaite Aglaé et Valentin tant qu'ils ne sont pas encore sur l'écran. Voilà, mais l'imagination est libre de...
Bien sûr. Nous arrivons au terme de cette émission, hélas, déjà Éric Fouassier. Je vous reprendrai en ligne juste après. Et nous allons... Alors, je rappelle, Les Archanges de la Nuit, c'est le 5e volume du Bureau des Affaires Occultes paru chez Albin Michel. 395 pages, 21,90 €. Et j'ai trouvé une chanson qui devrait bien aller avec cet ouvrage, peu connu de Robert Charlebois, qui s'appelle L'Alchimie, tout simplement. Nous allons terminer avec cette chanson.
Je suis un troubadour perdu, venu d'un autre Moyen-Âge. J'ai voyagé comme j'ai vécu, au cœur de la chimie des sages. Je suis dans le bateau des ondes et je ne chante que pour elle. Ma mort sera la fin du monde. Je m'appelle Nicolas Flamel.